Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Parodian Rhapsody. Aujourd'hui, on continue notre rétrospective du travail des Monty Python avec Life of Brian, sorti en 1979. Alors bien sûr, ce Parodian va être très particulier, car nous allons aborder un genre nouveau et pourtant surreprésenté dans le champ de la parodie, à savoir la satire religieuse. Celle-ci est aussi vieille que la religion et elle existait de tout temps. Ainsi, si l'on remonte à une des premières parodies modernes, telle que peut être Gargantua, on a déjà cette satire religieuse. Il faut dire que la religion reste un sujet essentiel de nos sociétés, qu'elle ait changé de statut au fil des siècles ou non. Lieu des plus hautes croyances, lieu d'histoire, mais aussi système en tant que tel, la religion semble un sujet où la portée critique et détournante de la parodie peut prendre toute son ampleur. En bref, la religion est un sujet englobant et qui ne laisse personne indifférent, ce qui rend les parodies qui sont faites de la religion d'autant plus intéressantes. Cependant, si le genre de la parodie fait de Life of Brian un film à part, je l'ai malgré tout inscrit au cœur de notre rétrospective du travail des Monty Python. Je parlerai donc de ce film en tant qu'inscrit dans l'œuvre des Monty Python, en reprenant des éléments évoqués dans l'épisode précédent, et en essayant de voir si ce film se place en continuité ou en rupture avec Sacré Graal, sorti 4 ans avant Life of Brian. En bref, en tant que satire religieuse, comme en tant que travail des Monty Python, La vie de Brian est un film à part dans le paysage cinématographique, et par conséquent qui mérite toute notre attention. D'abord, essayons de mettre en lumière les liens entre religion et cinéma, et plus particulièrement la mise en cinéma du christianisme. Si vous avez vu le dernier film des frères Coen, à savoir Ave César, vous savez que vers les années 50, Hollywood et plus généralement le cinéma occidental a tout mis en œuvre pour narrer la Bible au cinéma, avec son et couleur cette fois. Une mini-série a alors marqué le Royaume-Uni et l'Italie, à savoir Jesus of Nazareth, de Franco Zeffirelli. Nous sommes donc dans une période où la représentation au cinéma, ici du Nouveau Testament, est quelque chose de présent et de reconnu. A noter que sans aucun lien direct avec cette mini-série, Life of Brian s'installe dans les mêmes décors que Jesus of Nazareth, ce qui explique le lien implicite et esthétique qu'ont dû faire bien des Anglais qui pouvaient voir ou non Life of Brian. Car oui, Life of Brian a eu une diffusion chaotique puisque censurée par de nombreuses associations pour le motif de blasphème présumé. Cependant, le film est plus hérétique que blasphématoire, car pour citer Jones, il attaque les dogmes et le système de la religion et non les textes en tant que tels. Après tout, il n'est pas question de Jésus dans le film, mais bien plus de Brian, cet enfant que les rois mages auraient en premier lieu confondu avec Jésus en se trompant des tables avant de rapidement se ressaisir. En bref, Life of Brian s'inscrit comme une parodie d'un exercice en vogue à l'époque, qui est l'adaptation cinématographique des textes bibliques, ce qui n'a bien sûr pas plu à un certain nombre de religieux traditionnels, ce qui montre encore une fois le caractère éminemment touchy du sujet religieux. On reviendra cependant plus tard en détail sur la portée satirique religieuse du film, qui n'est d'ailleurs pas unidimensionnelle puisqu'on a aussi une satire politique, comme on le verra. Revenons d'abord à ce rapport qu'a Life of Brian avec le cinéma biblique, qui est, je pense, bien plus l'œuvre détournée que le Nouveau Testament à proprement parler. Regardons donc quels sont les clichés de ce cinéma que Life of Brian va dans un second temps détourner. Si vous avez vu Ave César encore une fois, vous avez, je pense, bien en tête les éléments caractéristiques, des tropes ou des clichés de ce cinéma. Il y a ainsi une esthétisation dans ces films de l'époque où est censé se passer le Nouveau Testament. Une époque faite de lapidation, de vandalisme, de grande pauvreté, presque de sauvagerie. De même, la question de la présence romaine à Jérusalem et en Judée est un élément clé de tous ces films, face justement au peuple juif. En effet, ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus. On a donc constamment cette opposition entre oppresseur décrit comme imbu de lui-même et en grand décalage culturel avec un oppressé soumis justement au joug romain. En tant que genre cinématographique, les éléments caractéristiques sont aussi très nombreux. Une grande pudeur et un très grand respect, une déférence est présente dans tous ces films, On est ici dans le sacré, messieurs. Cependant, ce sont des films qui sont aussi adressés au peuple, et donc on écrit Jésus également comme un homme ordinaire et plein de qualités, ce qui peut d'ailleurs déplaire à certains qui considèrent Jésus comme étant avant tout de nature divine. La focalisation sur le bas-peuple de Judée est donc un trait caractéristique de ce genre. Comment les Monty Python vont alors prendre cette base, encore une fois très bien comprise, pour en faire de la comédie? Encore plus par rapport à notre dernier film, assiste-t-on à une rupture, une continuité? Je dirais qu'il y a clairement une continuité. Le film se trouve être très proche de Sacré Graal en termes d'humour, et c'est normal. Peu d'années séparent les deux films, seulement 4 ans. On va donc retrouver plusieurs mécanismes communs à Sacré Graal dans l'humour, mais beaucoup sont mieux maîtrisés et affirmés. On reprend des dogmes que l'on va pousser au maximum de l'idée, jusqu'à un certain absurde. Les Romains et la présence romaine sont au centre de cette mise en absurde. Je pense notamment à la scène de Jeu du Cirque, qui se finit de manière très inattendue, ou encore au nom des Romains. On part d'abord de l'idée qu'un Romain va avoir un nom stupide, mais on ne se contente pas, à la manière d'Astérix, d'en faire une vanne passagère. On joue dessus car faisant partie d'une réalité qui est celle du film. Dans la scène où Ponce Pilate va interroger ses gardes sur pourquoi il trouve le nom de son ami drôle, on a ici presque un effet comique qui casse l'effet de réel du film. On part d'abord du postulat que dans ce film, les noms des Romains sont des blagues dans notre langue, mais qui sont des noms tout à fait sérieux dans cet univers. Puis on voit des gardes et d'autres rire de ces noms-là, comme s'ils savaient, au fond, que ça veut dire ce que l'on entend, à savoir une insulte chez nous. Comme s'ils comprenaient que c'est absurde. C'est là où l'on retrouve une maîtrise de ce jeu d'enfant que l'on a avec Sacré Graal. On joue avec les codes que l'on a institués dans son propre film, comme si tout le monde n'avait pas été briefé ou qu'on était rattrapé par la réalité. La question, par exemple, du jeu autour du genre des personnages, et notamment Stan qui se sent plus Loretta, apparaît dans un film où la plupart des personnages femmes, et notamment la mère de Brian, Mundy, sont joués par des hommes. On remarque encore une fois qu'une partie des codes manipulés relève de codes cinématographiques. En début de film, la course-poursuite, où il y a toujours un clampin qui vient se mettre au travers du chemin, ou encore la scène de la fouille de la planque, qui reprend et parodie de nombreux codes de cette scène caractéristique. Enfin, on peut encore citer le magnifique jeu autour du climax du sauvetage final de Brian, où notamment un élément du film Spartacus est parodié. Si l'absurde ne s'attelle jamais aux codes porteurs du film et notamment sur la narration, Life of Brian étant plus maîtrisé dans son humour se permet des choses plus folles, et notamment ce passage avec des extraterrestres. Il utilise même un humour plus visuel, avec une scène qui m'a beaucoup plu, avec un mouvement de caméra et un rythme très intéressant, à savoir le réveil avec Judith. Brian est alors nu et se lève en se réveillant. La pudeur du cinéma anglo-saxon va vouloir absolument éviter que l'on voit son appareil génital. Le mouvement de la caméra et la gestuelle du réveil vont alors être très travaillés pour s'atteler à ne pas voir sa bite. Jusqu'à ce qu'il ouvre les volets, pour qu'on le voie plein cadre face à sa fenêtre, le zizi à l'air. Cet élément de réalisation plus osé est peut-être dû aussi à l'affirmation d'une ligne unique dans la réalisation, puisque Jones est désormais seul aux manettes, contrairement à Sacré Graal, où Gilliam co-réalisait. Si je devais vraiment placer Life of Brian dans le travail des Monty Python, ce serait vraiment, selon moi, le moment de la maturité de leur style. D'autres éléments m'amènent à penser le film en tant que tel. Je pense par exemple au générique, qui reprend le détournement à la Monty Python, donc tout en dessin, d'un style graphique donné, pour le rendre plus psychédélique. On reprend ici les clichés autour du graphisme romain, de la récurrence importante d'éléments en pierre taillée par exemple. Enfin, à bien des égards, le placement des moments musicaux, et notamment du fameux moment musical, est bien plus pertinent que dans Sacré Graal. Le final de Life of Brian, car oui, je parle bien de ce moment musical, représente une scène qui était certes extrêmement osée à l'époque, qui a fait tiquer beaucoup de religieux pour son caractère perçu comme moqueur, mais qui est, d'un point de vue humoristique et même cinématographique, une apothéose de l'absurde à l'anglaise des Monty Python, qui, selon moi, caractérise le mieux toute l'œuvre des Monty Python. Car oui, Always Look on the Bright Side of Life, pour ne pas le citer, c'est à la fois cet absurde trait par la situation où la chanson est lancée, mais aussi un absurde trait par le lancement de cette chanson. Always Look on the Bright Side of Life, c'est ce côté enfantin des Monty Python qui ressort par ce moment musical très happy ending, à la Broadway presque, mais également toute l'intelligence qui ne se sépare jamais des atours moqueurs, qui est le style des Pythons, à travers un questionnement sur le rapport à la mort dans la religion, ici chrétienne. Tout ça, dans Life of Brian, s'affirme en termes de style pour finalement donner un moment musical final d'une efficacité rare et d'une intelligence sur commune mesure. En résumé, plus que jamais, en jouant, les Monty Python se font virtuoses. Mais au-delà d'une confirmation de laisser marquer par Sacré Graal, Life of Brian semble prendre aussi en son sein une portée éminemment différente et bien plus satirique à de nombreux égards, chose que sa cathédrale ne faisait qu'en filigrane. La question du rapport au contemporain dans Life of Brian est un élément central de l'humour mais aussi de la satire du film. D'abord dans l'humour, car évidemment, le décalage anachronique est porteur d'absurde. On peut ainsi observer la scène au début du film où le mendiant a un comportement qui se rapproche de la vision du SDF que l'on pouvait avoir à l'époque de la sortie du film. Ou encore lors de la scène à l'arène où Brian vend des snacks tels le vendeur ambulant que l'on trouve habituellement dans les stades, mais où ici les snacks sont loin d'être des hot dogs. Ça c'est pour les éléments jouant sur l'absurde. Mais Life of Brian va plus loin en proposant un vrai parallèle tenu dans tout le film et qui est très critique, à savoir toutes les scènes autour de The People's Front of Judea, et donc la satire politique faite dans une Angleterre qui se trouvait alors dans un état de crise, puisque se passait précédemment à la sortie du film, l'hiver du mécontentement. Dans ce film, la lutte organisée contre l'oppression romaine moque les partis d'extrême gauche et leur manque de réel politique. Cette satire se crée d'abord par l'importation d'éléments contemporains dans ces organisations. The People's Front of Judea est quasi exclusivement nommé que par ses initiales, PFG, comme les partis politiques modernes. Les techniques de lutte sont également résolument modernes. Je ne pense pas qu'à l'époque la notion de plan d'un lieu soit très établie par exemple. C'est à partir de ce type d'éléments que l'on fait implicitement le lien avec la vie politique à l'extrême gauche de cette époque. Le film développe alors tout un univers autour de cette lutte organisée contre l'oppression romaine, ce qui invite à critiquer ouvertement certains partis d'extrême gauche. De nombreux partis se trouvent alors être en opposition avec la présence romaine en Judée, mais ces partis sont séparés pour des raisons de divergence politique infime, ce que Freud appelle le narcissisme de la petite différence. Il peut alors être facile d'y voir les nombreux courants liés au marxisme mais dérivés de celui-ci, qui forment ainsi dans la lutte d'extrême gauche de nombreux partis séparatistes, qui court-circuitent la lutte contre un ennemi commun, à la fois en réduisant la force unie, et alors question d'un parti qui ne contient qu'un seul membre dans le film, mais aussi en créant des tensions internes qui viennent remplacer la lutte contre leur ennemi commun. Je fais ici référence à la scène où les deux parties de la libération du peuple de Judée, très proches même en termes de nom, préfèrent se battre entre eux plutôt que contre leur ennemi commun, à savoir la présence romaine. D'autres éléments liés à cet imaginaire et en partie à cette réalité sont au cœur de la satire. On pense notamment à ces scènes faisant référence aux âgés où l'amour pour le blabla et la bureaucratie semblent caractériser les protagonistes du People's Front of Judea, ou la moquerie des revendications faites à l'encontre des Romains, avec cette fameuse formule « What have Romans ever done for us ?». A noter que, pour montrer justement que l'œuvre des Monty Python est bien devenue en très peu de temps un élément important de la culture britannique, on peut rappeler que Blair a repris en 2006 cette citation de Life of Brian en répondant à un journaliste « What has the Labour government ever done for us ?». En clair, la satire politique dans ce film est un élément intéressant, car en plus d'être assez bien mené, il semble au premier abord impromptu à trouver dans une satire religieuse. Et pourtant, même si le Nouveau Testament et la vie de Jésus s'inscrivent implicitement dans un contexte politique narré, il me semble pour moi que la grande importance de cet élément est issue du fait qu'on se demande, peut-être à raison, qui dans ce pays va être en mesure de sauver Brian ? L'ultime absurde est en ce jeu avec les climax, dont la plupart sont démontés à cause de cette absurde politique, des membres du parti du People's Front of Judea, ou encore des kamikazes adeptes des lieux de reproduction des chevaux et d'un certain fromage industriel aimé par les enfants. En bref, ce qui est questionné et satirisé ici, c'est la possibilité de l'efficacité d'un contre-pouvoir face à toute forme d'oppression, élément qui sera a posteriori décisif lorsqu'en 84-85, Thatcher cassera les syndicats. Mais bien sûr, le cœur du film reste cette satire religieuse, peut-être là aussi une explication du succès encore important de Life of Brian, tant il pose des questions vis-à-vis de notre rapport à la religion et quel danger il existe face à la religion, non pas en tant que chemin personnel, mais institué en tant que système à travers l'église avec un grand E. Ce film cible en particulier la question de la croyance aveugle et des dogmes. Il est important d'abord de voir ce que ce film n'est pas d'un point de vue religieux pour ensuite comprendre les réactions et les choix qui ont été faits. Ce film n'est pas un blasphème, car Jésus n'est en aucun cas critiqué ou mouché dans ce film. Je dirais même plus, et c'est rejoint ce que les Pythons ont souhaité. Jésus, dans ce film, est respecté pour ses messages. La seule fois où on le voit, c'est lui donnant le serment sur la montagne, sans aucun édulcorant, ni aucune moquerie sur Jésus en tant que tel. Ainsi, comment parler de blasphème, là où les textes sacrés ne sont pas au cœur de la satire. Et pourtant, comme je l'ai dit plus haut, le film a fait polémique. D'abord diffusé aux États-Unis, où il n'y a pas de loi anti-blasphème, ce film fut ouvertement critiqué pour blasphème par de nombreuses associations de chrétiens, et notamment en Angleterre, à tel point que la BBC et ITV n'ont pas pu diffuser le film sur leur écran. De nombreuses mairies, même son cinéma, dans la ville, l'ont banni, de même que la Norvège pendant un an et l'Irlande pendant 8. Il n'a été diffusé en Italie qu'en 1991. Encore aujourd'hui, le film est banni d'une certaine mairie. Pourquoi de telles réactions ? Peut-être car justement, le film essaye d'insuffler aux thèmes et aux considérations autour de la religion une portée et une dimension nouvelles. Peut-être car les pythons ont de la religion et de ce qu'elle peut apporter aux hommes une conception bien plus haute qu'on a l'église. La religion n'est pas critiquée en soi, mais plutôt le rapport qu'ont une certaine partie des gens vis-à-vis d'elle. Une fois qu'on a compris ça, on comprend alors les messages du film. Le film s'oppose à la superstition aveugle dans la religion, à la question d'un instinct grégaire qui viendrait parasiter avec le sens premier de la religion, comme un effet pervers à l'apport de sens que la religion apporte pour certains. L'Église notamment, en tant que système, vient dire aux gens ce qu'ils doivent voir dans la religion, et par conséquent, les aveugle en héritage de ce passé, où la religion était utilisée comme outil du contrôle social massif, de par ce fait que les gens n'avaient peu ou prou pas accès aux textes sacrés. C'est en tout cas contre ça que les Monty Python s'opposent à travers leur satire qui reste très soft comparé aux choses qu'on a pu voir en France par exemple, avec plus ou moins de succès ou non. Car pour le coup, contrairement à de nombreuses caricatures, je trouve que l'approche satirique des Monty Python sur le sujet est très fine, puisqu'elle dit des choses essentielles tout en n'ayant aucune volonté intrinsèque de blesser les gens dans leurs croyances ou dans leurs représentations, notamment car elles savent que ce n'est pas là le cœur du problème avec la religion. Ainsi, on oppose parfois la conception de la liberté d'expression qu'on a en France avec celle qu'il y a au Royaume-Uni, sur le sujet de la religion notamment. Et pourtant, sous couvert de liberté d'expression, la caricature, notamment religieuse, a souvent une portée satirique assez médiocre. J'estime pour ma part que la satire religieuse doit permettre d'aller au-delà de la simple question de savoir si la religion c'est bien, ou de savoir si on a le droit de dire, de faire ou de dessiner des choses juste pour faire chier les gens. La religion, si en France est globalement vue comme désuète, notamment car une grande partie des Français ne se réclament d'aucune religion, il ne faut pas oublier que pour d'autres pays, c'est une partie intégrante de la vie des gens, et donc que l'approche doit être différente. Mais je trouve que, pour le coup, avec Life of Brian, cette nécessité de bien négocier cette approche a permis aux pythons de mieux travailler leur message qui aujourd'hui, 37 ans après, ne pose presque plus de problèmes pour personne dans la société britannique. Pour faire un petit écart qui va me permettre de résumer, c'est, selon moi, la différence entre l'approche du religieux qu'a François Rollin, si j'en crois son interview pour KTO, et l'approche d'Astier, ouvertement anti-religieuse. D'un côté, Rollin reconnaît que la religion peut être importante pour certaines personnes, pour des raisons qui leur est propres, et par conséquent, ne les attaque pas frontalement. De l'autre, Astier affirme sans concession qu'il faut qu'on arrête avec la religion, sans faire aucune distinction entre la religion en tant que chemin personnel et la religion en tant que dogme ou en tant que système. L'approche de Rollin est pour moi clairement dans ce qu'a voulu faire les Monty Python, ce qui n'est pas étonnant vu les nombreux parallèles qu'on peut faire entre le collectif humoristique et le comédien français. En clair, Life of Brian est un film à part, qui a eu une réception unique en termes de violence du rejet et de difficultés de production, notamment pour ses atours satiriques vis-à-vis de la religion. Et pourtant, ce n'est qu'une partie du film qui se caractérise selon moi avant tout comme la maturité d'un humour et d'un style qui s'inscrit ici dans un long métrage. C'est également oublier la portée satirique à visée politique qui est aussi intéressante. Et pourtant, ce que l'on retient de ce film, c'est la chanson finale et le discours de Brian à la foule qui le suit aveuglément. Peut-être car dans notre époque qui est en perte de repères, la question de notre rapport à la religion est un enjeu renouvelé dans nos sociétés. Life of Brian essaye alors d'élever le débat, distingue par son humour raffiné des nuances apportées sur la question religieuse. Ainsi, la satire avec les Monty Python devient alors art. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté en entier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux, à mettre des étoiles sur iTunes et à vous abonner pour ne rater aucune nouvelle sortie. N'hésitez pas également à commenter, ça fait toujours plaisir de lire vos contre-analyses. Parodian Rhapsody est une émission produite par Radio Kawa. N'hésitez pas à aller checker les autres émissions de la web radio. Quant à nous, on se retrouve le 17 novembre pour la suite de notre rétrospective sur les Monty Python. À dans un mois. Ciao.
Bonjour, je m'appelle Perrine Andrieux et je vous invite à découvrir Les Pressés de l'Expression. C'est le podcast Travail et langue française. Apprenez à mieux vous exprimer dans un cadre professionnel et soyez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral lorsque vous vous adressez à vos collègues, à vos clients ou à vos supérieurs. Je vous propose des épisodes courts, réguliers et en libre téléchargement avec des recommandations qui passent toutes seules. Ce que je vous raconte est documenté et se base le plus souvent sur les positions de l'Académie française, l'avis des sémiologues et une utilisation approfondie du dictionnaire. Retrouvez-moi un jeudi sur deux sur Radio Kawa.
Écouter nos émissions, c'est bien. Nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être encore mieux. Sur Twitter, c'est @RadioKawa, RadioKawa. Et sur Facebook, c'est facebook.com/RadioKawa.com, comme RadioKawa.com, sans le point, RadioKawa.com. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour voir l'ensemble de nos publications.